Voici une question dont la réponse est bien importante à comprendre. Qu'est-ce que la Bible entend quand elle dit qu'il faut vivre par la foi? La parole de Dieu va nous donner une réponse remplie de sagesse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a tellement besoin de l'enseignement que la Bible va nous donner en réponse à nos questions d'aujourd'hui. Je crois que vous serez d'accord avec moi quand vous allez entendre ce que ce merveilleux livre nous révèle dans chacun des sujets abordés. Alors voici nos questions. Qu'est-ce que la Bible entend quand elle dit d'être séparé du monde? Après avoir été utilisé par Dieu, est-ce qu'on est à l'abri d'une chute? Est-ce que la foi en Dieu est l'un des ponts vers le réveil? Qu'est-ce que la Bible entend quand elle dit qu'il faut vivre par la foi? Est-ce que le retour à la parole de Dieu peut susciter un réveil? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner les réponses tant attendues. Mais premièrement, prions. Seigneur, on veut connaître ta volonté à notre égard une fois de plus aujourd'hui. On veut grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole. Enseigne-nous, parle à nos cœurs, on a besoin de toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu Dieu détourner sa colère de Roboam lorsque celui-ci s'est humilié devant lui. Ensuite, son fils Abija monta sur le trône, mais il ne fut pas un bon roi. Cependant, la Bible rapporte un événement au cours duquel il fut exemplaire en criant à Dieu pour du secours. Ensuite, Asa lui succéda sur le trône d'Israël. Il y eut 5 grands réveils religieux sous différents rois de Juda. Et le premier se produisit pendant le règne d'Asa. Nous avons dit qu'il y a 3 ponts à traverser sur le chemin du réveil. Le premier, c'est un retour à la parole de Dieu, un enseignement approfondi de la parole et le fondement de tout véritable réveil. Nous avons vu que si nous voulons connaître Dieu de tout notre cœur, il se révélera à nous. Lorsque nous avons quitté Asa et le peuple à la dernière émission, ils prenaient un engagement de chercher Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Chroniques, chapitre 15, versets 13 et 14. « Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. » Les conséquences pour ne pas chercher Dieu étaient sévères. Mais le peuple le chercha, tout de même de bon cœur. Asa instaura de nombreuses réformes pendant son règne. Verset 15. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Mes amis, si vous cherchez Dieu avant toute chose, vous le trouverez. Dans l'Évangile de Matthieu, il nous est dit « Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » La séparation du monde est le deuxième pont vers un réveil. Nous avons vu que le premier pont vers un réveil est un retour à la parole de Dieu. Maintenant, nous allons considérer, chers amis, le deuxième pont qui est la séparation du monde. Cependant, ce mot « séparation » est très abusé dans nos milieux chrétiens, et plusieurs ne l'utilisent pas dans son sens biblique. Maintenant, observons Asa le mettre en pratique. Verset 16. Le roi Asa enleva même à Maaca sa mère la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. La mère d'Asa s'adonnait à l'idolâtrie. Elle n'était pas simplement l'amie de personnes idolâtres, mais elle vénérait Astarté. C'est pour cette raison qu'Asa la retirait de sa situation qui lui conférait une certaine puissance. Verset 17. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Asa aurait pu détruire les hauts lieux, mais il ne le fit point. Son obéissance fut partielle, mais Dieu l'utilisa tout de même, ce qui démontre sa bienveillance. Que veut dire être séparé du monde? Être séparé n'est pas critiquer les frères dans la foi qui ne font pas comme nous. Je me méfie de ceux qui se disent séparés et qui critiquent et condamnent tous ceux qui sont dans le ministère, mais qui n'emploient pas les mêmes façons de faire qu'eux. Mes amis, cela n'est pas ce qu'entend la Bible par la séparation. La séparation, ce n'est pas une tentative de corriger ou de réformer tous ceux que Dieu utilise afin qu'ils se conforment à notre manière de faire les choses. Cela est du sectarisme étroit d'esprit. Je pense que certaines personnes devraient se séparer elles-mêmes. Elles verraient alors une vraie séparation. Si vous désirez un réveil, commencez par vous. Isolez-vous dans une pièce. Tracez un cercle sur le plancher, placez-vous au centre du cercle et dites à Dieu, « Seigneur, envoie un réveil et qu'il débute dans ce cercle. » Poursuivons notre lecture, 2 Chroniques chapitre 16, verset 1er. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Nous avons lu, dans quelques versets, que des gens du royaume du Nord venaient adorer à Juda, car ils avaient entendu parler du réveil sous le règne d'Asa. Baécha voulait que son peuple reste dans son territoire, et il ne voulait pas que qui que ce soit aille s'installer en Juda. Versets 2 et 3. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire, « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, rompe ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Après avoir été utilisé par Dieu, nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Israël était devenu un ennemi puissant de Juda. Que fait Asa? Il se tourne vers un ancien allié, Ben-Hadad, roi de Syrie. Que démontre ce geste? Il indique qu'Asa manquait de foi en son Dieu. Il se tourne plutôt vers les hommes. Verset 4. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm, et tous les magasins des villes de Nephtali. Le roi de Syrie accepta d'attaquer Israël. Versets 5 et 6. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpa. La manœuvre réussit, mais Dieu a quelque chose à dire à son serviteur Asa. Versets 7 à 9. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Pourquoi Dieu envoie-t-il un prophète vers Asa pour lui faire des reproches? Pourquoi Dieu juge-t-il Asa? Parce qu'il a manqué de foi. Il a manqué de confiance en son Dieu. Le troisième pont vers un réveil est la foi. la foi en Dieu. Pas la foi dans les méthodes, pas la foi dans l'homme, pas la foi dans une église ou une institution, pas la foi dans une organisation. Pour un réveil, il faut placer notre foi en Dieu. Lorsque la guerre civile éclata à cause de Baasha, Asa s'appuya sur Ben-Hadad, roi de Syrie, un ancien ennemi d'Israël. Hanani rappela à Asa qu'il avait toutes les raisons de croire que Dieu le délivrerait. Il l'avait déjà fait avec l'innombrable armée d'Éthiopie. Cependant, lorsque la crise se présenta, Asa démontra son manque de foi. Nous devons comprendre clairement que si nous sommes sauvés par un acte de foi, c'est-à-dire que nous sommes sauvés du moment que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous continuons à vivre après notre salut, toujours par la foi, uniquement par la foi. Mes amis, nous devons vivre et marcher par la foi. Paul, l'apôtre Paul, a dit aux croyants romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1er versets 16 et 17. Qu'est-ce que Paul entend par la justice de Dieu révélée par la foi et pour la foi? Cela signifie que nous sommes sauvés par la foi et que nous devons vivre par la foi. Ne nous contentons pas d'être sauvés par la foi. Vivons aussi par la foi. Hanani dit à Asa, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu cherche des personnes qui croient en lui. Au fait, aimeriez-vous être cette personne qui croit Dieu? Je ne parle pas de devenir un fanatique, mais de croire Dieu sur la base du témoignage de sa parole. Savez-vous que vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne le croyez pas? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Donc, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quel est ce péché? L'incrédulité. Afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Oui, chers amis, ne nous contentons pas d'être sauvés par la foi. Vivons par la foi. De nombreuses personnes qui affirment être chrétiennes se comportent en personnes incrédules. Revenons à notre texte. Poursuivons notre lecture de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 10. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. N'est-ce pas étonnant? Asa n'accepte pas la réprimande. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas cru. Il n'avait pas la foi pour dépendre de Dieu. Vivre sans Dieu a comme résultat notre mort spirituelle. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui ne s'appuie pas sur lui. Dieu frappa Asa d'une maladie grave. Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Même dans la maladie, précise le texte, Asa ne se tourna pas vers Dieu. Il consulta les médecins. Il n'y avait rien de mal à consulter un médecin. Le problème, c'est qu'il l'a fait sans se tourner vers Dieu, sans implorer Dieu. Il est aussi important de s'adresser à Dieu qu'à un médecin lorsque nous sommes malades. Ceci ne veut pas dire d'aller voir une personne qui affirme avoir le don de guérir. Mais c'est de prier notre Père Céleste et de consulter les médecins. Les deux vont de pair. Jacques, le frère de Jésus, nous a écrit dans son épître un point très pratique. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques, chapitre 5, verset 14. Jacques a recommandé deux actions. Premièrement, se tourner vers Dieu et prier. La deuxième action consistait à oindre le patient d'huile. Ce n'était pas un rituel religieux, mais c'était un acte médical. Jacques recommandait de prier Dieu et d'appeler un médecin, ce qui était très pratique. Le problème avec Asa, c'est qu'il a appelé les médecins et il a ignoré totalement Dieu. C'est étonnant et triste de voir un homme utilisé pour un réveil spirituel, mais qui ne vit pas par la foi. La meilleure réponse à la prière est celle qui est conforme à la volonté de Dieu. Mes amis, vivre par la foi et croire en Dieu, c'est apporter nos problèmes à Dieu et les lui laisser. La foi accepte la réponse du Seigneur, car il entend et répond à nos prières selon sa volonté. Sa réponse n'est pas toujours celle que nous désirons, mais elle est conforme à sa volonté, ce qui est bon, ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Soyez assurés d'une chose. Si vous lui remettez le problème, vous serez dans sa volonté. Si vous êtes dans sa volonté, vous ne pouvez pas avoir de meilleure réponse. Elle est beaucoup mieux que celle que vous pouvez désirer. Que faites-vous avec vos problèmes? À qui allez-vous les porter? Vers qui? Vers Dieu ou vers les hommes? Versets 13 et 14. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Lors du décès d'Asa, son peuple brûla beaucoup de chandelles. Pendant son règne, Asa fut utilisé pour un réveil. Dieu l'utilisa, bien qu'il ne détruisit pas les hauts lieux et que son obéissance fût partielle. Maintenant, nous passons au chapitre 17. Et il relate le deuxième grand réveil religieux. Il fut encore plus important que celui sous le règne d'Asa. Josaphat, le fils d'Asa, sera utilisé par Dieu avec puissance. Les livres des chroniques donnent le point de vue divin et s'arrêtent sur les éléments spirituels importants sous les différents règnes des rois. Débutons notre lecture de Chroniques, chapitre 17, versets 1 et 2. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Josaphat fortifia son royaume pour se protéger d'Israël. Il y avait déjà eu une guerre entre les deux royaumes, et Josaphat est prudent. Verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat. Parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Josaphat marcha selon les voies d'Asa, son père, au début de son règne, alors qu'il recherchait Dieu. Versets 4 à 9. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanaël et Miché d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites Shemaéja, Nethania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob, Adonija, Lévite, et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple. Le premier pont traversé, pour un deuxième réveil et le retour à la parole de Dieu. Vous rendez-vous compte de ce que Josaphat a fait? Il a organisé un programme à travers la Bible. Ce n'est pas J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, ou nous qui avons inventé cela, puisqu'il ne pouvait pas utiliser les ondes radiophoniques. Il envoya donc les Lévites visiter les villes de Juda. Josaphat envoya donc des centaines, si ce n'est des milliers d'hommes, parcourir le pays. Ils ont enseigné la parole de Dieu dans tout leur royaume, mes amis. Voilà une façon de susciter un réveil. Tant que l'Église ne redonnera pas la priorité à la parole de Dieu, il n'y aura pas de véritable réveil. Tout mouvement qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu n'aboutira pas à un réveil. De nombreuses choses se passent dans l'Église et à l'extérieur de celle-ci. Si elle s'appuie sur la parole de Dieu, un réveil en résultera. Les églises reçoivent beaucoup de publicité d'organisations qui veulent enseigner comment obtenir un réveil religieux. Ils offrent leurs services pour tenir des réunions au cours desquelles de nombreuses personnes se consacreront à Dieu. On veut des messages d'engagement. Mais que faisons-nous de la parole de Dieu? La recette de Dieu est simple. Premièrement, reviens à la parole de Dieu. Étudie-la profondément pour connaître ton Dieu. Deuxièmement, sépare-toi de toute idolâtrie, sous toutes ses formes, ainsi que du monde, pour servir le seul vrai Dieu, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur de l'univers. C'est là la véritable consécration. Et troisièmement, crois Dieu et avance en lui faisant confiance. Sauvé par la foi, vivre par la foi. Voilà les trois éléments pour un réveil spirituel. La parole de Dieu, la séparation du monde et de toute idole, et de marcher, d'avancer par la foi en Dieu. Malheureusement, nous pensons connaître la Bible alors que nous citons des versets hors contexte sans comprendre leur véritable portée. Nous nous séparons des frères dans la foi qui n'expriment pas leur amour pour Dieu de la même façon que nous. Mais nous ne nous séparons pas de notre orgueil et des idoles dans notre cœur. Comme les gens de Thessalonique. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, chers amis. De pouvoir vivre de la sorte, vivre de l'Évangile, vivre de la parole de Dieu. Est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu, mes amis? Êtes-vous prêts à donner à Dieu la première place dans votre cœur afin de goûter la joie d'une communion intime avec lui et de le servir avec puissance? Mettons en pratique l'Évangile. Délaissons les principes de ce monde et adhérons au principe de Dieu. Voilà la véritable foi. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Chroniques chapitre 17 verset 9 à chapitre 19 verset 2.
Merci Régent. J'ai bien aimé ça quand tu as dit « Ne nous contentons pas d'être sauvés par la foi, vivons par la foi ». Tu as ajouté que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui ne s'appuie pas sur lui. Je pense que nous, les croyants, on aime réellement ça quand Dieu se sert de nous. Et j'ai remarqué que quand on essaie de faire quelque chose, même si c'est pour Dieu, on échoue si on ne lui recommande pas le projet, si on n'est pas certain de l'accomplir par sa force à lui. Ceux qui font partie de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir savent de quoi je parle. Chaque année, on organise ce qu'on appelle des camps de l'espoir à divers endroits au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Les camps de l'espoir sont des campagnes d'évangélisation où plusieurs croyants de diverses églises se réunissent dans une ville ou dans quelques villes voisines les unes des autres et où on organise toutes sortes de moyens pour atteindre la communauté par le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut par grâce. Ensemble, on va vers les gens pour leur dire combien Dieu les aime, au point d'avoir donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On est même en train d'organiser de tels camps pour l'Europe en l'an 2005. Tout ça pour vous dire qu'en tant que participant, on est témoin des campagnes qui réussissent réellement bien. Et on peut constater que ce sont celles qui ont été préparées dans la prière. Les églises qui se préparent ainsi pendant plusieurs mois, celles qui se réunissent chaque semaine pour prier ensemble et recommander le projet à Dieu, voient Dieu à l'œuvre d'une manière miraculeuse. Et elle récolte beaucoup de fruits suite au projet d'évangélisation. Par la prière, on démontre à Dieu qu'on réalise qu'on dépend totalement de lui, que sans lui, on ne peut rien faire. On réclame sa toute-puissance et on se réjouit d'avance de l'exaucement à nos prières. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Marc au 11e chapitre, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, quand on se réunit pour prier, Dieu nous rappelle ses promesses en rapport avec la prière. Et par le fait même, il fait grandir notre foi. Mon frère, ma sœur, quand on demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, on sait qu'il va nous exaucer. On sait que c'est sa volonté de sauver tous les hommes. Prions pour le salut de nos proches. Prions afin que Dieu se fasse connaître à nos familles, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, à tous ceux qu'ils placent sur notre chemin. Prions et agissons. Allons leur dire ce que Jésus a fait pour qu'ils n'aient pas à subir le châtiment éternel pour leurs fautes. Et prions pour eux. Prions pour eux chaque jour. Amenons-les au trône de la grâce, parce qu'on sait que Dieu veut les sauver, que Dieu les aime. Et disons-leur combien Jésus les a aimés en donnant sa vie sur la croix pour eux. Disons-leur qu'il y a un Sauveur merveilleux, que même si personne semble les aimer sur cette terre, ils ont un Créateur qui les aime de toute éternité, qui les veut avec lui pour l'éternité, qui va essuyer un jour toute larme de leurs yeux. Disons-leur combien Dieu les aime. Peut-être que demain, on n'aura pas l'opportunité de leur dire. Disons-leur pendant qu'il est encore temps. Disons-leur avant qu'il soit trop tard. Avant qu'ils aient peut-être mis fin eux-mêmes à leur jour. Il y a tellement de douleur sur cette terre. Dieu veut se servir de nous pour faire connaître son amour merveilleux, pour consoler les cœurs affligés, pour leur donner la vie éternelle.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire
la correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.